cerveau et ça du talent du pour de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche alors. Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme deux femmes écrivains qu'on aime bien dans cette émission. Il s'agit de Chantal Pelletier qui nous revient avec un nouveau roman qui est paru aux éditions Joël Losfeld, roman qui s'intitule L'ourson et que j'aime particulièrement. Et puis, en deuxième partie émission, nous retrouverons également quelqu'un qu'on aime bien sur cette antenne. Il s'agit de Michel Lèbre pour un récit qui s'intitule « La furieuse, rive et dérive » et c'est paru chez Sabine Vespizer. C'est un joli programme aujourd'hui en écoute. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir ces deux ouvrages dont nous allons parler et allez lire ensuite. On retrouve tout de suite Chantal Pelletier pour L'ourson. C'est son dernier roman, c'est remarquable et c'est paru aux éditions Joël Losfeld. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et débats avec le plaisir de retrouver Chantal Pelletier. C'est un vrai plaisir pour un nouveau roman qui est paru aux éditions Joël Losfeld et roman qui s'intitule L'ourson. Alors, c'est un titre qui peut poser question, surtout quand on connaît le sujet du livre. Donc, première question, comment est venu ce choix du titre ?
C'est un peu un jeu de mots, un déplacement de sonorité, puisqu'en fait, un des personnages importants du livre, des deux personnages importants du livre, c'est Orson Welles, et Orson, ça veut dire ourson, voilà. Donc, et puis, il y a dans ce face-à-face entre ce cinéaste prodigieux et puis la narratrice, il y a l'idée de que c'est pas forcément le plus puissant qui a les cartes en main, c'est plutôt elle qui a les cartes en main et qui donc d'une certaine façon fait de Wells une sorte de joujou et donc voilà, d'où ce titre un peu énigmatique, L'ourson.
Oui, alors moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que en plus, J'allais dire, c'est une continuation quand on connaît ce qu'a écrit Chantal Pelletier, parce qu'on y retrouve cette présence récurrente du cinéma. Alors bien sûr, il y avait le livre qui évoquait Jean-Luc Godard, il y avait Romy Schneider, et maintenant c'est Orson Welles. Et cette continuité, moi, me plaît bien, parce que le cinéma est quelque chose que j'aime aussi énormément, et en faire un objet romanesque, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement.
Oui, c'est vrai que le cinéma est assez présent dans ce que j'écris. Bon, j'ai aussi écrit une sorte de pas de vraiment de biographie, mais autour de Simone Signoret, même si c'était pas une fiction. Et même dans mes autres livres, il arrive que le cinéma soit un fil. Alors le cinéma, je dois beaucoup au cinéma. En fait, je pense que le cinéma m'a vraiment ouvert beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes, et donc je suis toujours dans cette fascination des œuvres cinématographiques et des personnages qu'elles impliquent. Et évidemment, un personnage comme Orson Welles, cet homme qui mesure presque 2 mètres, qui est à la limite de l'obésité et qui est d'une précocité absolument inouïe, puisque dès l'enfance, il interprète des rôles au théâtre. Il est vraiment... Et puis, à 23 ans, il a une renommée mondiale déjà comme homme de radio, en faisant croire que les
Martiens ont débarqué.
En Amérique, enfin, etc. C'est un personnage absolument fascinant, et à la fois c'est un personnage réel. Alors, l'utiliser dans une fiction, c'est assez délicieux, parce qu'à la fois on parle d'un personnage réel, mais qui est tellement d'une hyper-réalité, tellement avec une présence tellement forte et tellement de talent, parce qu'à la fois il est aussi non seulement homme de radio, cinéaste, c'est un acteur extraordinaire, mais c'est aussi un magicien, enfin bon, c'est aussi quelqu'un qui avait un talent d'écriture, etc. Donc c'est une sorte de monstre, en fait. Et donc il y avait l'idée quand même de retrouver un personnage d'ogre, c'est-à-dire de quelqu'un qui est surpuissant, qui est écrasant, et de le mettre en face, enfin, de le mettre en face de quelqu'un qui est fragile, qui est très solitaire, qui est très perdu, qui justement, à la différence de Wells, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, notamment elle n'a pas de pouvoir sur les autres, ce qui n'est pas le cas d'Orson, bien sûr, et donc de faire jouer cette rencontre, et pas toujours s'en amuser, parce que évidemment il y a des choses qui sont souriantes dans le livre, il y a des choses qui sont plus graves, d'aller chercher ce que ça fait quand on est fragile en face d'un monstre. Et je crois que c'est un sujet qui me paraissait bien contemporain, parce que vraiment on est dans un monde tellement partagé où il y a vraiment des surpuissants qui écrasent des gens fragiles et sans... Voilà.
Oui, puis ce qui est intéressant aussi dans la manière de décrire ce personnage, parce que là, je parle du personnage d'Orson Welles dans L'Ourson, donc ce roman de Chantal Pelletier paru aux éditions Joël Losfeld, c'est la mise en abîme entre le personnage réel et les rôles qu'il a interprétés, et ce mélange perçu par la narratrice, dont on parlera dans quelques instants. Et donc ce personnage de Bigger Than Life, qui est Orson Welles, qui a lui-même joué Falstaff, qui est quand même un personnage absolument incroyable, ça prend une tournure particulière. Et d'ailleurs est évoqué dans le roman un autre film qui est La Rose Pourpre du Caire, et on est un peu dans cette situation-là. Quel est le personnage qu'on a dans le roman ? C'est Orson Welles ou c'est le Falstaff qui est sorti de l'écran comme le personnage de La Rose Pourpre du Caire ?
Oui, c'est-à-dire, il y a toujours
c'est ce jeu. Bah oui,
que Quand on est au cinéma devant un très grand écran, mais vraiment au cinéma, là, c'est pour ça que d'ailleurs que la couverture du livre montre une salle de cinéma avec ses fauteuils rouges, c'est que quand on est vraiment devant un grand écran et qu'on participe réellement à l'histoire et qu'on est vraiment emporté par l'histoire, on a vraiment envie d'entrer dans l'écran. C'est pour ça que La Rose pourpre du Caire, c'était ce film formidable où on était toujours perdu, mais aussi perdu que les personnages du film, qui voyant que l'écran n'était pas étanche et qu'on pouvait
passer
d'un côté et de l'autre, et ils étaient complètement perdus, ils savaient plus ce qu'il fallait faire, enfin, etc. Et ce jeu de traverser l'écran, ben, c'est à la fois un fantasme, mais bon, évidemment, c'est quelque chose dont on peut jouer. Par l'écriture, et donc on en revient au titre qui est un petit peu ludique aussi.
Alors je vais faire une petite parenthèse là par rapport au fait de voir les films au cinéma, parce que justement la narratrice à un moment dit que le cinéma a commencé vraiment à partir du moment où il y a eu la VHS.
Ah non, pas le cinéma a commencé vraiment. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment étudier l'histoire du cinéma. Cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre Malraux disait qu'on a pu vraiment commencer à écrire l'histoire de l'art quand il y a eu la photographie, parce que là, à ce moment-là, on a pu aller dans le monde entier, photographier des œuvres, les comparer à d'autres, enfin, etc., et donc faire ce travail qui, bien sûr, avait était entrepris un peu par le dessin, mais évidemment la photo tout d'un coup rendait les choses extrêmement simples, et du coup on pouvait comparer et écrire une histoire, c'est notamment comparer, pouvoir vraiment classifier, etc. Or l'idée de passer d'enregistrement sur cassette, sur VHS, etc., effectivement tout d'un coup il y avait une miniaturisation du cinéma. Le cinéma à domicile, c'était vraiment une époque frénétique où tout le monde voulait absolument avoir un magnétoscope chez lui, acheter des VHS, on se prêtait les VHS, qui avait enregistré tel ciné-club à la télévision, qui avait loué au vidéoclub tel film qu'on pouvait encore garder quelques heures et donc il fallait profiter de voir, etc. C'est-à-dire à la fois c'était une ouverture considérable sur la connaissance du cinéma, parce que ça permettait par exemple de voir ou de revoir des films, ou même de prendre connaissance de films qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir, parce que bon, les écrans d'aujourd'hui n'existaient pas, on n'avait pas internet pour aller chercher des streamings, etc.
Chanson. toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me
En fait, cette époque m'a beaucoup intéressée justement par rapport à aujourd'hui où on est aussi dans cette révolution de l'image qui est encore bien davantage miniaturisée et où on a non seulement le cinéma ou les images à domicile, mais les images sur soi, avec son téléphone, même avec sa montre, etc. Mais en fait, cette miniaturisation, elle a commencé justement dans les années 80 avec la VHS. Et ça me plaisait beaucoup aussi de le revisiter, ça.
Et c'est aussi très important pour la narratrice. On va en parler un petit peu, puisque elle a ce côté... presque collectionneuse. Bah déjà, c'est son métier, elle gère une photothèque, elle travaille dans l'image, elle a fait l'IDEC, mais elle est du côté technique. C'est quelque chose qui la fascine, la technique et l'image. Et le livre commence, le roman commence, le jour de la mort de Truffaut. Et elle doit donc aider à la réalisation du numéro spécial consacré à Truffaut. Et elle est tout le temps dans l'accumulation des photos, des VHS qui sont classées chez elle par ordre alphabétique ou par cohabitation particulière. C'est ça qui est intéressant aussi, la manière qu'elle a de ranger ses VHS et de faire cohabiter Wenders avec pas du tout par ordre alphabétique. Et ça en fait un personnage extrêmement touchant parce que on voyage dans ses goûts, on voyage dans son amour du cinéma.
Oui, je crois que de toute façon, c'est une histoire d'amour du cinéma. Ça, oui. Je pense que c'est une chose essentielle. Et l'idée, c'était vraiment de travailler autour de l'image, effectivement. Donc ça commence par des photos. Parce qu'elle est tout début du livre, elle doit... visionner toutes les photos qu'elle a de Truffaut pour pouvoir les vendre à d'autres journaux qui lui réclament, etc., mais en même temps en garder pour la revue pour laquelle elle travaille, etc. Et quand elle rentre chez elle, elle regarde des films ou elle a la télévision allumée pour éventuellement attendre le ciné-club, etc. Donc effectivement, cette omniprésence de l'image, c'est aussi quelque chose qui est avant-gardiste d'aujourd'hui, où on est tout le temps dans les images, où les images rentrent non seulement pratiquement dans tous nos loisirs, mais même dans l'écriture. C'est-à-dire que même moi, il m'arrive d'utiliser des émojis là pour dire que j'embrasse quelqu'un, etc. Donc parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite que de mettre une bouche que de mettre je t'embrasse. Voilà, donc etc. C'est-à-dire que l'image elle est tellement omniprésente comme dans le livre.
Alors il va y avoir une rencontre inattendue, donc justement elle va sortir après son déjeuner parce que c'est quelqu'un qui ne mange que ce qu'elle prépare elle-même. Cette rencontre, elle est inattendue, absolument incroyable. Elle se retrouve donc face à Orson Welles qui la connaît et qui va l'inviter à déjeuner. Et là, ça m'a fait sourire parce que ce repas au restaurant m'a renvoyé au roman de Chantal Pelletier précédent avec les œufs en meurette. La récurrence des œufs en meurette.
Oui, c'est-à-dire il fallait un plat très riche et assez spectaculaire, assez pictural, parce que finalement les œufs en meurette, ça a ce côté de mélanger le jaune coulant avec la sauce au vin, etc. Donc c'est vraiment, on passe dans l'abstraction picturale. Donc ça c'était bien. Le déjeuner, parce que tout d'un coup, dans ce monde d'images, où elle raconte comment regarder les photos d'un mort, puisque Truffaut vient de mourir, c'est quand même une double mort, hein, et qui rappelle qu'on finit tous comme ça, non pas dans une tombe, mais finalement en deux dimensions dans une photo. Et là, tout d'un coup, il y a vraiment l'irruption de la sensualité.
Oui,
c'est-à-dire qu'on sort de l'image. Et on est dans... parce qu'on sait à quel point...
la vue est omniprésente.
Orson Welles était un ogre qui commandait toujours plusieurs plats à la fois pour lui tout seul, enfin, etc. Il fallait donc toujours que ce soit au-dessus de la normale, ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, etc. Et là, elle assiste à cette scène de gloutonnerie et de plaisir, parce qu'apparemment, oui, il a beaucoup, beaucoup de plaisir là. Et c'est quelqu'un qui a une présence sensuelle très forte, parce qu'il, d'abord, il est très spectaculaire, très grand, très, très, très imposant. Et puis, il est très souriant, il est très charmeur. Et puis, elle a ses odeurs corporelles, oui, de quelqu'un, justement, qui est très gros et qui développe des arômes, bon, etc. Et c'est quelqu'un je tenais absolument à ce que ce soit un déjeuner pour ça, c'est-à-dire que tout d'un coup on sort de l'image pour être dans une vie extrêmement présente par tous les sens qui sont en action tout d'un coup.
Moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment cette femme qui ne vit que par l'image, qui a donc uniquement une prédominance de la vue, parce que bon, on voit un petit peu ce qu'elle mange entre ses yaourts qu'elle fait elle-même, son riz blanc, enfin il y a pas d'odeur, il y a pas de couleur, il y a pas de saveur, tout est fade, il y a que l'image qui compte. Et là, effectivement, elle va voir Orson Welles, elle va sentir les odeurs de ce qu'il mange, son odeur corporelle à lui qui va se changer, et elle va écouter sa voix. Ouais. Et là, on bascule dans quelque chose, se réveille à la vie. Avec lui, il va en quelque sorte faire effraction dans sa défense picturale pour lui proposer une autre alternative. Et ça va tout mettre en déséquilibre à partir de ce moment-là. Alors, elle a une vie particulière qu'on ne va pas dévoiler parce que effectivement, il ne faut pas non plus déflorer le livre. Mais cette sensorialité, elle me touche beaucoup parce que c'est aussi un trait fort de l'écriture de Chantal Pelletier, cette capacité à décrire les éléments sensoriels. Et avec ce personnage d'Orson Welles, qu'on va voir donc une fois, mais qui va être évoqué de manière récurrente dans le roman. Je veux dire, il y a dû y avoir un plaisir d'écriture quand même à le.
Ah oui, ah oui, oui, bien sûr, parce que c'est un personnage qui appelle, qui est tellement dans l'excès qu'il appelle des descriptions et des façons de le montrer qui sont extrêmement variées, en fait, parce que comme c'est un personnage multiple déjà, comme c'est un personnage qu'on a vu surgir avec cette présence incroyable, c'est-à-dire c'est vraiment le charisme, et non seulement le charisme de son corps imposant, etc., mais aussi le charisme de sa voix. Parce que donc, je le répète, c'est quelqu'un qui a vraiment commencé sa carrière par le théâtre et par la radio. Parallèlement, et que sa voix de radio a été immédiatement perçue comme et de théâtre d'une richesse absolument incroyable. Et il semblerait qu'il était capable d'imiter 4 ou 5 bébés qui pleuraient de façon différente et qu'on pouvait visualiser l'idée que c'était des bébés qui pleuraient de façon différente. Donc c'est une richesse d'interprétation simplement par la voix qui est extrêmement importante et qui, je pense, est extrêmement importante dans le cinéma. Parce que évidemment, dans le cinéma, il y a l'image, mais il y a aussi les voix qui enveloppent, les voix qui réveillent, les voix qui font peur, enfin, etc. C'est extrêmement important.
I know what it is to be young. You don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone their time with you.
I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old.
Days to remember.
Full of laughter and tears. After summer comes winter.
After summer comes winter.
And so go the years.
So go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time.
Et ce d'autant plus qu'au cours de ce repas, bon, ils vont échanger sur différentes choses, dont un projet que vous découvrirez en lisant L'Ourson de Chantal Pelletier chez Joël Losfeld, mais il va lui raconter aussi un conte. Et ce conte, il est extrêmement important, et il va mettre en avant une notion qui est superbe, qui est la notion de la parenthèse enchantée, qui aurait pu être aussi le titre du livre, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et c'est un joli choix et une super métaphore, quand même, qu'il lui propose.
Donc, il faudrait le raconter un petit peu pour imaginer. C'est-à-dire que c'est un puissant sultan, enfin, d'Orient, qui veut donner toutes les chances à son héritier pour qu'il soit parfaitement bien éduqué. Donc il met très longtemps à choisir un professeur qui va éduquer son fils héritier. Et donc ce professeur va parcourir le monde pour perfectionner ses connaissances dans tous les domaines, enfin, etc. Et le jour où il commence il entame sa première leçon, il décide il s'installe, et au moment où il commence à parler, il y a un oiseau qui arrive à ce moment-là et qui se pose sur la rambarde du balcon et qui se met à chanter. Et là, il dit, ben voilà, la première leçon est terminée, l'oiseau a chanté, c'était la parenthèse enchantée, et voilà, et il suffit de méditer là-dessus. Donc voilà, effectivement, pour la narratrice, commence une parenthèse enchantée où, comme Orson Welles l'a chargé d'une mission, cette mission va remplir ses journées et constituer une sorte de parenthèse enchantée.
Orson Welles, moi j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses sur lui en lisant donc L'Ourson, Chantal Pelletier. J'ai découvert aussi ses difficultés, parce qu'au moment où la narratrice fait cette rencontre, il ne tourne plus beaucoup, il est plutôt déclassé, et on découvre aussi toutes les difficultés qu'il a eues par rapport au milieu du cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que on garde en mémoire les images des films, effectivement, que ce soit Le Troisième Homme ou Falstaff, comme on l'évoquait, ou d'autres films, mais on ne sait pas grand-chose de son engagement politique, de sa manière de traiter avec les studios, on ne sait pas les difficultés même par rapport à Citizen Kane, et ça, j'ai trouvé que, en plus de l'argument romanesque de l'histoire qui est captivante, c'est un livre où on apprend plein de choses.
Oui, parce que la narratrice, elle est obligée de parfaire sa connaissance sur lui, donc de rechercher dans les livres dont elle peut disposer, dans les revues de cinéma qui parlent de lui, etc., tout ce qui le concerne, parce qu'il faut qu'elle comprenne pourquoi il l'a chargée de cette mission et comment elle va s'en sortir pour répondre à sa demande. Et effectivement, c'est un personnage d'une telle ampleur que donc évidemment tout n'est pas raconté. Donc il ne s'agissait pas d'écrire quelque chose qui aurait été une sorte de biographie d'Orson Welles, parce qu'en fait tout est vu par les yeux de la narratrice, d'une façon donc subjective, où elle essaye vraiment de saisir non pas un personnage mais une personne, c'est-à-dire tout ce qu'il a vraiment constitué à la fois dans ses différentes activités, dans sa vie personnelle, etc. Elle essaye vraiment de le saisir, et comme c'est un personnage d'une ampleur considérable, on découvre des choses qui ne sont pas forcément évidentes si on ne s'est pas spécifiquement intéressé à Orson Welles, et qui disent beaucoup sur les rapports entre l'Amérique et l'Europe, entre justement cette fascination que que les Européens ont eu après l'après-guerre pour les États-Unis, notamment par le biais de la musique, du cinéma, etc. Mmh. Donc on peut dire que lui a bien sûr participé énormément à ça. En plus, son personnage débordant et puissant représente bien l'Amérique, mais à la fois, l'Amérique, d'une certaine façon, lui a fait des croche-pieds, ne lui a pas du tout facilité la vie, parce que justement, il était trop pour l'Amérique.
Oui,
il était trop rebelle, et c'était quelqu'un qui voyait les impasses de l'Amérique, enfin, qu'on voit bien aujourd'hui et qu'on voit bien depuis un certain temps, mais qu'on a mis quand même très longtemps à voir en face. Et parce que finalement, Citizen Kane, c'était déjà une façon de décortiquer le mythe américain.
Oui, bah quand il dit que c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd sa mère et qui est adopté par une banque, c'est sûr que c'est déjà très clair.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est impardonnable. Parce qu'en fait, tout le cinéma américain du XXe siècle repose sur édifier le mythe de l'Amérique.
Oui, c'est ça, sur le mythe.
Tout le but est là, c'est de le consolider pour étendre pour que l'Amérique étende son pouvoir sur le monde. Ça a été vraiment un outil extraordinaire. Le cinéma comme la musique ont été des outils extraordinaires pour construire le mythe américain. Et en fait, donc, à la fois il en participe, il en est un symbole absolument formidable de puissance, et à la fois, comme il est lucide et comme c'est un rebelle, c'est impardonnable, donc il va réussir à s'enfuir avant d'être sur la liste noire des gens qu'il fallait dégommer parce qu'ils étaient accusés d'avoir des complicités communistes, enfin, etc. Le communiste était le diable, ou tout ce qui... Et donc, du coup, ce qui faisait peu à peu éliminer tout ce qui était de l'ordre de la réflexion, du progrès, de l'imagination, etc. Et ce qui est une période extrêmement noire des États-Unis, que Wells a sans doute été un des premiers à voir, à analyser et donc à fuir.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Tu te laveras pas les pognes avant de venir à table. Tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.
Oui, alors c'est ce Wells-là aussi qu'on découvre en lisant L'Ourson, donc paru aux éditions Joël Losfeld. Mais Chantal Pelletier, je voudrais que, sans dévoiler l'histoire, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de la construction du livre, parce que cette histoire, ce roman est raconté sous forme de différentes parties correspondant à des carnets qui sont rédigés par la narratrice. Et quand on lit, bah oui, ça paraît évident ce découpage, mais je pense que ça a dû nécessiter quand même un sacré travail d'écriture d'en arriver à cette partition.
Alors, je voulais de toute façon, peut-être même avant que le personnage de Wells apparaisse, je pense que l'une des premières choses, c'était que je souhaitais écrire un livre où quelqu'un, devant un mystère, était plus ou moins obligé de mettre sa vie en carnet, donc d'écrire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de résoudre ce mystère, et que d'une certaine façon, ça rend fou. C'est-à-dire au lieu... Et je pense que pour moi, ça c'est la métaphore de l'écriture en général, c'est-à-dire que... Évidemment, quand on a la chance d'écrire de la fiction, c'est une aide précieuse pour, disons, pour habiter le monde plus raisonnablement. Mais à la fois, c'est quelque chose qui approfondit des choses difficiles et qui est extrêmement perturbant. C'est-à-dire, et si on n'a pas d'interlocuteur pour faire quelque chose de ce travail-là, c'est très dangereux psychiquement, je dirais. Et pour moi, c'était cette métaphore d'écriture de quelqu'un qui était devant quelque chose de tellement impossible à saisir qu'il fallait absolument l'éclaircir par l'écriture. Pour moi, cette métaphore de l'écriture, c'était le... la première idée du livre. Donc, si vous voulez, la construction, elle ne s'est pas élaborée à partir, comme souvent, à partir des personnages ou à partir de l'histoire, mais je cherchais une histoire pour entrer vraiment dans cette métaphore-là. Donc, presque, elle était préexistante.
D'accord. Alors, il y a donc un carnet destiné à la rencontre, il y a donc un carnet destiné à la narratrice, il y a celui consacré à Orson Welles, et puis il y a celui consacré au cinéma, puis un dernier qu'on n'évoquera pas, parce que effectivement, il est aussi question dans L'Ourson, au-delà d'Orson Welles, des rapports qu'on peut avoir avec le cinéma et de comment le cinéma peut avoir un rôle, j'allais dire, consolateur.
Oui, consolateur, même largement, parce que je pense que le cinéma lui sauve la vie à cette femme. Donc, qui est très solitaire, qui est très perdue, qui est vraiment accidentée de la vie, qui a eu une enfance très difficile, enfin bon, etc. Marquée par une tragédie. Et oui, le cinéma lui a sauvé la vie dans son adolescence, etc. Et donc là, bon, même si ce personnage n'est pas du tout autobiographique, et là, bon, ben, on retrouve quelque chose qui m'est très cher et qui est lié à des choses qui sont constitutives pour moi. C'est-à-dire que je pense vraiment que les livres et le cinéma, au moment de l'adolescence, de mon adolescence qui a été particulièrement agitée, je pense vraiment que ça m'a sauvé la vie, oui, parce que je crois que j'étais assez prête de partir en vrille, vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est peut-être le cœur le cœur du livre aussi, enfin dans ce qui échappe, ce qui reste dans les obsessions principales et qui fait qu'on continue à écrire et qu'on continue à essayer de voir clair.
Alors pour terminer, avant de recommander Lire l'ourson donc de Chantal Pelletier, paru aux éditions Joël Losfeld, on a tous un Rosebud.
Bien sûr, on a tous un Rosebud, parce que forcément, si on veut le mettre, si on veut le définir, je pense que pour chacun, on peut le définir, oui. Mais il faut déjà peut-être expliquer ce qu'est un Rosebud, ou ce n'est pas la peine.
On peut le rappeler.
En fait, c'est dans dans Citizen Kane, on voit un homme qui meurt en prononçant un mot qu'on ne saisit pas vraiment. Et en fait, ce mot, c'est Rosebud. Donc, on peut avoir plein d'interprétations différentes. Et en fait, on se rend compte, au final, que c'est le nom, enfin, qui était marqué sur la luge de son enfance quand il jouait dans la neige chez ses parents, avant d'être emmené vers un pensionnat qui correspondait à son rang social pour être éduqué dans une grande école, etc. Et donc, ce Rosebud, ben, il est finalement là tout le long du film, comme un fil comme une sorte de voile qui survole le film et puis qui a une sorte de résolution à la fin. Et bien sûr, je pense que chacun peut avoir un nom, un objet qui symbolise le film de sa vie, oui, bien sûr.
En tout cas, la narratrice aura le sien et vous découvrirez ce que c'est en lisant L'ourson de Chantal Pelletier, paru aux éditions Joël Losfeld. Merci Chantal Pelletier.
Merci.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio
Libertaire. Voilà, c'était Chantal Pelletier sur Radio Libertaire. Chantal Pelletier qui nous parlait de L'ourson, paru aux éditions Joël Losfeld. Je vous le recommande. Nous allons dans quelques instants retrouver Michel Lèbre. C'est un autre style, mais tout aussi passionnant, puisque là, nous retrouvons Michel Lèbre avec un récit qui est paru chez Sabine Vespizer. Récit qui s'intitule « La furieuse, rives et dérives ». On l'écoute tout de suite sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Michel Lèbre pour un récit qui est paru aux éditions Sabine Vespizer, comme d'habitude, grande fidélité, et qui s'intitule « La furieuse, rive et dérive ». Alors, si je précise récit, Michel Lèbre, alors déjà, je suis heureuse de vous retrouver, bien sûr, mais si je précise récit, c'est qu'à un moment de ce récit, vous évoquez le fait qu'au départ, cela aurait pu être un roman. Que cette histoire de la furieuse était prévue avec un personnage féminin qui se rapprochait de la furieuse, qui est une rivière, on va le dire d'emblée, et que vous êtes rendu compte, en réfléchissant à cette histoire, que le côté romanesque tombait dans la mesure où cette histoire, c'était la vôtre.
Ben, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire qu'il s'est passé plus de 3 ans avant que je commence vraiment à l'écrire. Là, d'abord, ce qui m'a complètement accroché, c'est ce nom de rivière, La Furieuse.
Bien sûr.
Immédiatement, je me suis dit, c'est pour moi, ça. Sans savoir vraiment quoi en faire, j'étais pas sûre. Mais je savais que c'était moi. Il fallait que je m'en empare. Et sur ces entrefaites est arrivé le premier confinement. Et c'était un moment de stupéfaction générale, bien sûr. Et puis, les interdictions de sortir, quelque chose de complètement impossible, quoi. C'était presque irréel comme situation. Et en même temps, je me disais, c'était le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Finalement, c'était quelque chose qui devait arriver. Ça me rappelait le titre de ce directeur, de l'ancien directeur du Monde diplomatique qui avait écrit « Géopolitique du chaos », que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait effrayée. Et en même temps, je me disais, la géopolitique du chaos, pour des tas de raisons, et en plus un virus aussi, voilà. Et puis, en y réfléchissant, et en faisant des petites tentatives, effectivement, j'avais commencé à faire un début de roman où une femme qui n'arrivait plus à être bien dans ce monde-là, qui lui déplaisait pour des tas de raisons, comme à moi, et partir de chez elle, malgré le confinement, comme une espèce de fugue, comme ça, donc voilà. Et puis, ça m'est un peu tombé des mains, parce que j'avais l'impression que je tournais autour de quelque chose et que j'arrivais pas à rentrer dans le vrai sujet. Et comme vous le dites si bien, en fait, cette femme-là, c'était moi. Donc autant l'admettre et autant l'écrire, non pas ce roman, un roman, mais cette échappée pour aller rejoindre cette furieuse qui me semblait si proche.
Alors la furieuse, on en parlera tout à l'heure, parce qu'elle n'arrive pas tout de suite. Il y a tout un cheminement jusqu'à la furieuse, parce qu'il y a le confinement, et puis parce qu'il va y avoir d'autres rivières, d'autres fleuves qui vont conduire jusqu'à la furieuse. Et c'est cette balade littéraire à laquelle vous nous conviez, Michel Lèbre, dans La Furieuse, donc ce récit paru chez Sabine Vespizer, Rive et dérive, c'est ça. Et c'est un... Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce livre, parce que c'est à la fois un livre qui coule, mais en même temps, c'est un livre qui n'a pas un rythme monotone. C'est un livre... C'est un livre qui s'écoule, qui s'arrête, qui revient, qui repart. Et avec donc l'eau comme dynamique et en même temps les lectures qui y sont rattachées. Et c'est un triple voyage d'une certaine manière. Il y a le voyage de l'eau qui chemine, il y a le voyage littéraire et le voyage dans votre vie et dans votre mémoire. Et c'est cette mise en parallèle de ces différents voyages qui m'a beaucoup émue.
Alors, c'est vrai que pendant ce premier confinement, les librairies étaient fermées. Et puis, de toute façon, je ne pouvais que relire ce que j'avais chez moi. Je n'avais aucune envie de lire des romans. Ça ne m'intéressait pas du tout. D'abord, j'étais privée de mes balades matinales sur les quais de Seine. C'était terrible pour moi. Donc, je me suis dit, je vais relire des livres que j'ai chez moi, qui sont comme ça des livres d'auteurs qui cheminent le long d'une rivière, qui la remontent, qui la descendent, ou qui habitent en bord de fleuves ou de rivières. Et c'est comme ça que j'ai repris les livres de Magris, de Rumiz, de Jean-Paul Kaufmann, Michel Desbordes et Julien Gracq, qui habitent au bord de la Loire, Jean Rollin, voilà, tous ces auteurs que par ailleurs j'aime énormément, dont j'ai lu beaucoup de livres de chacun. Et ça a été pour moi un vrai voyage, c'était vraiment le début du voyage, en le relisant. Et j'oublie Edward Abbé, que j'aime énormément aussi, cet auteur américain qui est déjà disparu depuis un bon moment, qui est un auteur magnifique, voilà.
Et il y en a un que je vais rajouter parce que c'est quelqu'un qui m'est cher aussi, c'est Hubert Mingarelli.
Et
je dois vous dire que je vous en veux, d'une certaine manière, Michel Lèbre, parce que je n'avais pas su son décès, et donc j'ai appris qu'il était décédé en lisant votre livre.
Oui, ça a été... Cet auteur, comme je l'ai dit dans le livre d'ailleurs, hein, il avait quelque chose comment dire, presque d'inatteignable, tellement c'était magnifique. Tous ses livres étaient magnifiques.
Je l'ai reçu à plusieurs reprises, donc c'est quelqu'un qui m'était cher.
Ah là là, mais vraiment, il le portait sur le visage d'ailleurs, cette espèce de secrète douleur, de vivre, enfin je ne sais pas, c'était très beau. Et bien sûr, je ne me suis pas privée de relire sa rivière, qui d'ailleurs n'en est pas une, c'est ça qui est magnifique. Et avec cette dédicace qu'il m'avait faite en plus, qui tombait vraiment tellement bien pour moi, et une Bermingarelli, bien sûr. Voilà, c'est. Et alors, franchement, pendant tous ces voyages, évidemment, c'est comment dire, je suis allée à la racine de mon mal-être du moment, c'est-à-dire à travers les souvenirs d'enfance, parce que de ma naissance à 18 ou 20 ans, j'ai passé des étés à la campagne chez mes grands-parents, qui n'étaient pas paysans, mais qui avaient une maison à quelques kilomètres de Roanne, en pleine campagne, une vraie campagne, qui malheureusement n'existe quasiment plus aujourd'hui, avec des paysans, des fermes et une nature à peu près respectée, quoi, hein, et non pas une agriculture industrielle. Et c'est vrai que là, j'ai compris qu'il fallait que je mêle ces souvenirs à cette histoire, parce qu'elle fait partie de ce mal-être que j'ai dans le monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, en vieillissant, il n'est plus du tout le monde que j'ai aimé, que j'ai habité, dans lequel j'ai lutté politiquement, socialement. C'est un monde qui, moi, m'est totalement étranger et auquel je n'ai aucune envie de me... je n'ai aucune envie de l'adopter, ce monde. Je le boude tant que je peux. C'est difficile, j'arrive mal. De façon un petit peu dérisoire et enfantine, hein. Je ne m'achète pas de téléphone du moment. J'ai un vieux Nokia, j'y tiens. Je l'accompagnerai jusqu'à sa mort. Et c'est vrai que je les mets en parallèle avec cette campagne que j'ai connue, ces relations que j'ai eues pendant des années et même après, de ces petits paysans du coin, dont il y en a un qui est mort là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, que j'ai suivi après, on se donnait des nouvelles. C'est des gens pour lesquels j'ai une tendresse infinie, et je me souviens de ce drame de cette famille de très nombreuse qui était à côté de la maison où j'allais en vacances. Ils se sont tous dispersés au bout d'un moment, quand la mère et le père étaient déjà morts du tétanos, bien sûr. Et puis la mère a continué avec ses 7 ou 8 enfants, je ne sais plus combien ils étaient. Et celui qui avait exactement mon âge est mort il y a 3 ans. Et c'était comme si quelqu'un de ma famille mourait. C'était chargé de symboles en plus. C'était cette campagne qui est morte, qui n'existe plus. La ferme est abandonnée. De toute façon, toutes les fermes alentour le sont. Ce sont des gens de ville qui viennent faire des résidences secondaires. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi, avec cette campagne.
Avec cette campagne, j'allais dire, mais c'est la même chose. C'est un peu ce qu'on ressent à la lecture du livre. C'est le rapport à tout ce qui a disparu. Que ce soit la campagne, que ce soit les personnages, bien sûr, les gens qu'on croise, que ce soit les éléments, je pense à ce couvent en Italie avec ces nonnes qui a disparu. Et c'est ça qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'on a tous ça dans notre mémoire, on a tous ces choses qui étaient là, qui ont été là pour nous et qui n'existent plus et comment partager. Et c'est toute la question aussi du rapport au temps que vous évoquez. À un moment, vous dites que la petite fille, elle reste toujours, elle demeure. Et je crois que c'est très, très important. Tous les âges demeurent dans l'individu. Ouais. Et il faut arrêter de cloisonner. Et vous renvoyez ça aussi à Paul Virilio, que j'aime beaucoup, et au rapport au temps et à l'époque.
Absolument. Il a écrit des tellement belles choses, Paul Virilio aussi. C'est un auteur que j'ai lu jusqu'à sa mort, que j'ai beaucoup regretté, sur la vitesse, sur ce tas de choses qui sont tellement vraies et dont on paye le désastre aujourd'hui, sur cette fameuse vitesse. Un monde qui n'est pas... je sais pas. Alors, je sais bien qu'en vieillissant, les choses changent autour de soi et qu'on n'est plus dans les mêmes conditions. Je pense que toutes les générations ont dû vivre ça plus ou moins. Mais je pense que la mienne, quand même, pour des tas de raisons, moi je suis née fin 39, donc au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai l'impression que c'est pas un changement. Comment dire, je suis dans un autre monde qui m'est étranger, avec une langue que je ne comprends pas. Moi, je ne parle pas Internet et je n'ai pas du tout l'intention de parler Internet. Je veux dire, c'est ni l'anglais, c'est pas le français, c'est autre chose. C'est une espèce de langue internationale que j'arrive pas à adopter, vraiment. Elle ne m'est pas du tout... d'autant plus que j'en ai pas besoin, moi. Je ne fais pas un métier qui m'oblige à l'emprunter. Et donc, je ne vois pas pourquoi je m'efforcerais de prendre ce langage. Voilà.
Et je me permets de rajouter, Michel Lèbre, une citation qui est dans La Furieuse, donc ce récit paru chez Sabine Vespizer, qu'à un moment, je ne sais plus de qui est la citation, vous allez peut-être me le dire, de quelqu'un qui s'approche d'un ordinateur et qui dit « c'est un lieu de mémoire, mais pas de souvenir ». Et je trouve que c'est exactement ça. On est dans une époque où il y a énormément de mémoire, on a perdu le sens du souvenir.
Exactement. Et c'est même pour ça que j'ai écrit sur ces souvenirs d'enfance qui sont toujours là. Et c'est ça qui est important.
C'est le noyau irréductible.
Mais évidemment. Et tout comme je dis, les petites filles ne désertent pas le corps des dames, des vieilles dames. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que j'ai voulu... dresser mes barrières, moi, contre un monde qui est terriblement oublieux ou qui piétine les choses et qui passe à autre chose avec une accumulation technique qui me fait vraiment peur quand on connaît tous les dangers que ça entraîne. Mais on a l'impression que on est là comme des aveugles à courir sur un chemin qui ne mène nulle part.
Et à s'aveugler de la modernité alors que la guerre, elle est toujours là.
Bien sûr. Et non seulement elle est là, mais elle n'est plus sur les champs de bataille. La guerre, comme l'avait très bien dit Paul Virilio, elle est dans les villes. Ce sont les civils que l'on tue. On est en train de le voir en Ukraine, et déjà bien avant. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Alors, tout ça dit maladroitement, sentimentalement. Je suis ni philosophe ni sociologue, donc j'ai pas un langage. extrêmement, adéquate pour ça, mais j'ai essayé de le faire quand même en passant par des chemins plus intimes et plus... sentimentaux, voilà.
Oui, mais justement, ça suscite beaucoup d'émotions à la lecture quand on découvre La Furieuse. Il faut quand même qu'on dise un mot de ces deux très beaux personnages que sont Léon et Mathilde, parce qu'ils sont là, de leur époque, comme vous évoquiez Michel Lèbre il y a quelques instants, et en même temps, ils sont extrêmement présents. Moi, je les ai vus tout le long du livre. Et alors, Léon est un beau personnage, mais je crois que j'ai un faible particulier pour Mathilde. Mathilde et ses rêves. C'est absolument incroyable, cette histoire.
Ma grand-mère, alors, mais Léon et Mathilde sont mon grand-père et ma grand-mère maternelle, à qui je dois beaucoup. J'étais dans une famille très turbulente entre mes parents, c'était très, très compliqué. Donc je me suis retrouvée très souvent chez eux, même pendant des années scolaires entières. Et ils se sont mariés juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors mon grand-père était d'Aurillac et ma grand-mère venait d'Ardèche, de Serrières. Je ne suis pas sûre que ce soit un mariage d'amour fou, du moins du côté de ma grand-mère. J'ai toujours pensé qu'elle avait perdu un homme qu'elle aimait pendant la guerre. Et je crois que je ne me trompe pas. Et quant à mon grand-père, c'est quelqu'un qui, sans me raconter quoi que ce soit, ne serait-ce que vivre à ses côtés, m'a énormément accompagnée jusque-là. Je voulais absolument... lui plaire, qu'il me considère. Je me souviens, j'écrivais des textes que je lui faisais lire et j'attendais ses réactions. Il ne m'a jamais raconté d'histoire, il ne m'a jamais pris sur ses genoux comme les grands-pères, encore que si j'ai une photo quand je suis bébé. Mais cet homme qui avait une certaine liberté en lui, qui écrivait des poèmes en cachette, c'était la façon qu'il avait de vivre. Et j'ai passé des après-midi entiers à pêcher avec lui, au bord de l'étang qui était à côté de la maison. Dans ce silence, moi j'ai toujours aimé le silence, et c'est peut-être lui qui me l'a appris. Dans un silence radical, parce qu'on ne fait pas de bruit quand on pêche au bord d'un étang, si on saute sur le bord, le bruit effarouche les poissons. Et puis, on n'est pas attentif, donc... On est là, on fixe plus ou moins le bouchon, plutôt moins que plus, en ce qui me concernait. Mais il y a des tas de choses qui se passent. Et puis, je le regardais, l'air de rien. Et j'ai adoré cet homme. Mmh. Adoré cet homme qui vivait sa vie. Peut-être un peu égoïste, sans doute. Ses balades, seul. Il était tout le temps, tout le temps seul. C'était, comme je le dis à un moment, un militant des heures longues et de la rêverie. Mmh. Et ça, c'est quand même assez rare et je trouve ça magnifique. Et quant à Mathilde, elle m'a beaucoup émue, mais c'était plus difficile avec elle. D'abord, c'était une femme secrète, pas toujours d'ailleurs, parce qu'elle racontait des fois ce rêve récurrent qu'elle faisait. Et puis, elle ne lisait pas, contrairement à mon grand-père, ou très peu. Elle était plutôt dans les travaux d'aiguille, des choses comme ça... de tenir la maison. C'était pas quelqu'un dont je me sentais très proche. C'est une institutrice. Elle m'a eu en classe maternelle. Et donc, c'était devoir de vacances. Donc, c'était un peu compliqué. Et c'était à moi et ma soeur et mon frère, hein, d'ailleurs, qui elle a fait ça pendant tous les étés. C'était assez terrible. C'est une autre façon de l'aimer. Elle, c'était différent. Elle n'avait pas ce mystère qui charme, qui attire, qu'avait Léon. Elle était plus simple que lui. J'aimais le mystère de cet homme dont c'est finalement pas grand-chose. Quelques petits poèmes que j'ai pu récupérer après sa mort. Mais j'aimais
quelques photos
à ses côtés parce que je me sentais à la fois libre et complètement... attiré par lui, quoi, par le monde qu'il crée autour de lui.
et puis, comme vous nous les présentez tous les deux dans La Furieuse, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute la différence entre mémoire et souvenir, parce que actuellement, on est dans les notices biographiques, Wikipédia ou autres, où on a du factuel, où on a cette oui. mémoire événementielle. Mais qui se souviendra des rêves de Mathilde ? Qui se souviendra des poèmes écrits par Léon ? Et je crois que rien que de poser la question, ça définit l'importance de la littérature. Et c'est vrai que dans La Furieuse aussi, Michel Lèbre, vous évoquez la question de l'écriture, de comment ça naît chez vous, comment vous revenez aussi sur des ouvrages passés. Je crois qu'il y a une vraie réflexion aussi dans ce livre sur ce que c'est qu'écrire.
Bien sûr, tout à fait. Des fois, je me dis, c'est le dernier livre. C'est comme si... Et c'est pas triste. Mmh. Quand je dis ça, c'est pas du tout triste. C'est parce que effectivement, peut-être je me trompe, mais bon.
Je vous ai déjà entendu dire ça.
Vous n'êtes pas seule parce que plein d'amis m'ont dit oui, c'est ça. Tu nous l'as déjà dit. Mais quand même, celui-là, on peut comprendre pourquoi je le dis. Mmh. Parce qu'il y a vraiment, il y a à la fois les origines du fait que j'écrive et en même temps une sorte de pas de conclusion, mais quand même quoi. C'est comme si, en rejoignant cette rivière qui a un si beau nom, la Furieuse, c'est pour ça que, sans doute, que je lui confie tout ça. Quoi, c'est bon, ça y est, voilà. Tous les livres que j'ai écrits avant m'ont amené là aussi. Et c'est pas un hasard si son nom m'a appelé, quoi, à la rejoindre. Je pense que il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi parce que ça fait déjà les deux livres précédents, il y a Tableau noir sur mon mietlé d'institutrice, et puis peut-être celui encore d'avant, Rendez-vous à Parme. Je crois que j'ai moins envie d'écrire pour publier. Moi, je continue d'écrire mon journal depuis des années. Je vais le continuer. Je ne suis pas sûre de refaire un autre livre, mais bon... On ne sait jamais, il peut y avoir un hasard magnifique qui fait que, bon, je fasse une exception, mais bien sûr, je n'arrêterai pas d'écrire. J'ai toujours écrit, moi, depuis gamine, sans avoir rêvé d'être un auteur de quelques livres. Non, pas du tout, je n'avais pas cette ambition. C'était un besoin, tout simplement. Un besoin, ma liberté, quoi. Dans une famille un petit peu stressante, et enfin, quand je dis un petit peu, c'est assez stressant, c'était quand même l'endroit où je pouvais dire des choses, vivre ma vie, quoi, de petite fille.
Là, on va parler de La Furieuse, parce qu'il faut en parler, parce que La Furieuse, aussi beau nom, n'est pas une rivière ordinaire, elle est reliée à quelqu'un de précis.
Absolument.
Et il est important de parler de cette personne, parce que la commune est évoquée aussi au travers d'une déambulation, comme il y en a tant d'autres dans le livre, mais celle-là, c'est la déambulation à Paris au moment des commémorations de la commune.
Alors, moi, en plus, j'ai la chance, d'une certaine manière, moi, j'aime bien vivre sur des lieux où il s'est passé quelque chose d'important. J'habite en haut du Père-Lachaise, sur une petite place qui s'appelle la place Martin Nadeau, lequel Martin Nadeau était un artisan creusois, et qui était monté à Paris pendant la commune. Et puis... Autre lieu historique, le Père Lachaise, en bas du Père Lachaise, il y a tous les morts disparus, année par année, pendant la guerre de 14-18, sur une longueur absolument insensée. Et chaque fois, il m'arrive de descendre du bus à cet endroit, à l'entrée principale du Père Lachaise, pour passer devant ces noms, comme une sorte d'hommage que je leur fais, comme s'arrêter sur une tombe, parce que ça me bouleverse.
Prendre
un tel
le
nombre.
Temps.
Ce ne sont que les Parisiens, la région parisienne, c'est hallucinant. Et ces lieux historiques, pour moi, ils sont importants. Et il se trouve que La Furieuse se jette dans la Loue, laquelle Loue a été toute sa vie, la rivière de Courbet, qui était non loin de la ferme de ses parents, vers Flagey. Et et qui a été la rivière vers laquelle il est revenu quand il a fui Paris.
Après.
Au moment où on voulait absolument l'emprisonner et lui faire payer ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'il a toujours nié. Et puis Courbet, un personnage que j'aime, une espèce de lutteur, on peut dire, dont j'aime aussi la peinture, certaines surtout. Et puis, et ça je l'ai découvert, j'ai pas tout de suite pensé que c'était le pays Courbet, mais tout d'un coup j'ai dit en plus c'est le pays Courbet. Quoi. Mmh. Donc il y avait une espèce de totalité de choses qui regroupaient.
Qui emmenait là. Oui.
Voilà, mon passé d'engagement politique, même si il était déjà mort depuis longtemps. Mais je veux dire, il y a une espèce de familiarité. Vraiment, quoi. Ça me rappelle le livre que j'ai écrit sur Dojlida, l'ancien FTP Moy. Je cite un autre, FTP Moy, qui finalement a œuvré dans la région parisienne, qui était dans ce quartier aussi. Après, je me suis dit que dans ce livre, rassemble
beaucoup de choses.
Tout le tissu de ma vie, quand même. Oui, d'une certaine manière. Et la période de ma vie et tout ce qui m'a sollicité et auquel j'ai répondu. C'est pas un testament, mais c'est quelque chose qui était important dans un moment de blocage absolu. On ne pouvait rien faire, il était possible de rien, on ne savait pas quand ça s'arrêterait, et d'ailleurs ça continue, cette épidémie. Et je pense qu'elle est pour moi très symbolique quand même, cette épidémie, indépendamment des nuisances qu'elle produit, hein, y compris internationales. Elle dit des choses, je ne suis pas sûre que tout le monde en prenne compte. Enfin, moi, je trouve qu'elle dit des choses qu'on ferait bien d'écouter un peu. Oui.
Par rapport à la nature, par rapport à beaucoup de choses. Et on retrouve cette dimension symbolique d'une certaine manière, Michel Lèbre, justement dans votre rencontre avec la Furieuse, puisque vous allez y aller, et il y a une espèce de rituel qui va se mettre en place, parce que les rituels sont importants aussi. Absolument. Et puis dans le fait de vouloir la suivre de sa source jusqu'à son embouchure. Donc ça, je crois que c'est très important aussi.
Pour moi, c'était très important parce que vraiment, je la voulais en entier. Mm. Comme quand je voulais voir quelqu'un, je voulais la voir en entier aussi. Alors, j'ai adoré la suivre comme ça jusqu'à son embouchure, qui était une scène très belle. C'est une espèce d'embrassade comme ça avec la loue, magnifique, dans une sorte de tournant, au milieu des prés, de rien, il n'y avait rien autour. Et c'était extrêmement beau, ça m'a beaucoup émue cette image.
C'est une mort joyeuse.
Oui, c'était vraiment très très émouvant. Et puis bien sûr, j'ai visité la maison où est né... il n'est pas né dans sa ferme, puisque, paraît-il, elle a brûlé cette ferme au moment où sa mère allait accoucher. Donc, la mère a accouché à Ornans, parce que ce n'était pas possible d'accoucher dans la ferme. Bon, évidemment, tout s'est transformé, tout est refait, etc., bien sûr. C'est pas un problème. Avoir marché sur ces terres, sur ces lieux,
c'est ça qui compte.
C'est ça qui compte, c'est les symboles. Le temps passe, évidemment, les choses se transforment.
C'est pas ce qui reste qui compte, c'est ce qui a existé. Et je vais terminer, Michel Lèbre, de parler de La Furieuse, donc Rivet des Rives, paru chez Sabine Vespizer, en citant une anecdote qui est dans le livre et qui, moi, m'a beaucoup émue. Vous allez régulièrement au Jardin des Plantes, vous asseyez sur un banc et il y a un homme qui vient et qui vous demande s'il peut s'asseoir à côté de vous. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Et il part en vous disant qu'il n'oubliera pas cette rencontre.
Oui.
Et moi, je trouve que ça résume le livre. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être concret, d'être bloqué. Non. C'est dans le souvenir, ça restera dans la mémoire et c'est ça qui est le plus important.
Alors cette scène, en fait, je l'ai écrite, je l'ai construite, cette scène. Mmh. Je voulais une scène comme ça, qui pour moi dit beaucoup de choses aujourd'hui, y compris dans certains aspects de la lutte des femmes d'aujourd'hui, que je ne partage pas forcément, même si je suis absolument depuis ma lecture du deuxième sexe, quand j'avais 22 ans ou 23 ans, les choses m'ont parlé sur la liberté des femmes. Mais il y a une partie de ce mouvement qui me semble... moi, je n'ai aucune haine contre les hommes. J'aime la compagnie des hommes. J'en ai aimé des hommes. Ce sont tous des hommes que je continue de revoir en amis. Il y a un moment, une histoire, elle est finie, mais il n'y a pas eu de guerre. Et je ne souscris pas à certains discours.
Oui, je pense qu'ils ont aussi leur poids à porter et qu'il va falloir remettre le balancier un peu.
Voilà, c'était une façon de le dire. Mais je crois qu'elle m'est venue, je n'ai pas cherché à la construire, cette histoire, elle m'est venue comme ça parce que je crois qu'elle a été initiée par des rencontres un peu fortuites comme ça, que j'aime beaucoup. Il ne se passe rien, il n'y a pas de suite, mais c'est ça qui est magnifique. Les gens se croisent, au lieu de faire semblant de ne pas se voir, on peut décider, et j'aimais qu'il décide, cet homme, malgré tous les bancs qui étaient vides tout autour, qu'il s'assoie à côté de, qu'il s'assoie à côté de moi, et qu'on regarde ce petit paysage que j'adore dans le jardin des plantes, cette forêt sauvage, à laquelle je suis fidèle, et qui lui aussi la regarde, et peut-être... comme je l'écris, qu'on ne voyait pas les mêmes choses, mais on les voyait ensemble.
Ensemble, c'est un beau mot pour terminer. Ça s'appelle La Furieuse, Rive et Dérive, c'est de Michel Lèvre, c'est paru chez Sabine Vespizer. Merci Michel Lèvre.
Merci.
arrive à la fin de cette émission Idéaux et débats du jour avec deux femmes écrivains au programme ce soir. Il y avait donc Chantal Pelletier qui nous parlait de L'Ourson, son dernier roman paru aux éditions Joël Losfeld, et Michel Lèbre qui nous parlait d'un récit intitulé La furieuse rive et dérive paru chez Sabine Vespizer. Deux ouvrages qui méritent qu'on y jette les yeux. Alors, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, bah, je vous conseille de lire ces livres. Et dans deux semaines, nous retrouverons Philippe Besson pour Ceci n'est pas un fait divers, qui est paru chez Julliard. Et puis, nous retrouverons également la chronique de Gérard Guégan. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire. C'est 89,4 MHz. Et portez-vous bien.
Radio Libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.